Tite chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, conforme à la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Juste trois titres des journaux de ce matin. À Marseille, les familles des victimes du trafic de drogue se mobilisent contre ce cancer qui gangrène partout. Une femme mortellement poignardée à Carvin, son conjoint interpellé. Un peu plus proche de chez nous, agent municipal tué à Grenoble, l'étrange business des voitures de location immatriculées en Pologne. Comment changer ce monde ? Comment va-t-on rendre les gens meilleurs ? Puis il ne faut pas aller très loin pour se rendre compte que ce n'est pas juste sur la une des journaux pour que le mal se manifeste. La triche, la violence à l'école, les ragots, la médisance, la tromperie au travail, l'égoïsme, les injures, les abus parfois à la maison. Comment est-ce que les gens deviendront-ils meilleurs ? Comment faire pour que notre pays grandisse dans l'amour, dans l'harmonie, dans la paix ? N'est-ce pas le monde dans lequel on aimerait tous vivre ? N'est-ce qu'une utopie ? Peut-être que vous êtes bien conscient du péché qui demeure en vous, c'est pas juste à l'extérieur, mais aussi en nous. Vous savez que vous avez causé bien du tort, vous connaissez votre cœur, vous aimeriez être plus patient avec vos enfants, plus aimant avec vos voisins, moins orgueilleux avec vos collègues. Vous pensiez peut-être qu'en devenant chrétien, la vie serait plus simple, je serais meilleur. Comment allons-nous changer ? Un ami à moi, Charles, était jeune étudiant en Angleterre. Il était frimeur, coureur de jupons. Il aimait s'amuser, il aimait boire. Et alors vraiment très intelligent le gars, vraiment. Mais rien à faire de Dieu, rien à faire de la morale, sans dessus dessous. Comment lui va-t-il changer ? Comment allons-nous changer et comment changer le monde ? Comment promouvoir le bien ? Eh bien, c'est le même problème qu'avait Tite. Tite était un jeune pasteur, un fidèle collaborateur de Paul. Et Paul l'a laissé à Crète pour s'occuper de cette ville. Et il ne faut pas s'imaginer que Crète, c'est la belle ville méditerranéenne où il fait bon vivre, le soleil, la plage, tout le monde est heureux en maillot. Non, non, Crète, c'était un sacré endroit. Regardez avec moi, chapitre 1, verset 12. Un Crétois même dit ceci de son propre peuple. Chapitre 1, verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ça, c'est quelque chose. Crète n'était pas un bel endroit. C'était un peu le quartier chaud où la débauche et la violence, c'était des normes. Puis finalement, est-ce que notre société ne serait pas un peu pareille ? Peut-être que Grenoble même, un peu comme ça aussi. Mais voilà, Paul écrit à Tite, qui est jeune pasteur, parce qu'il a la solution à ce mal. Voici comment changer Crète, Tite. Voici comment changer le monde. Voici comment transformer de méchantes bêtes en adorateurs de Dieu, zélés, désireux, ardents pour le bien. Et donc voici à quoi doit ressembler ton ministère, Tite. Voici ce que tu dois faire. Voici les priorités de ta mission en tant que pasteur. Et c'est ce qu'on va développer au cours de cette série dans Tite. Et ici, on a juste l'introduction où Paul, justement, donne ses priorités. Alors, je vous entends dire, et si vous ne le dites pas, vous devriez le dire, « Zach, nous ne sommes pas des pasteurs. Pourquoi tu nous dis un truc qui est adressé à un pasteur ?» Sauf Joël, qui ne devrait pas se dire ça. Et les anciens. Alors, vous avez raison. Mais Paul ne nous a pas oubliés. Alors, regardez avec moi aussi au chapitre 3. Gardez le texte ouvert, hein, on va continuer à regarder. Chapitre 3, verset 15, dans la conclusion, dans la salutation pour terminer la lettre, Paul dit « Tous ceux qui sont avec moi te saluent, Tite. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. » Vous tous. Paul s'attend, en écrivant à Tite, que toute l'Église entende ce qu'il a à dire. Et donc, quand on prêche cette lettre, c'est pas juste pour les anciens, c'est pas juste pour Joël, mais c'est pour nous tous, écoutons tous. Paul aimerait tous qu'on soit derrière les pasteurs, les anciens qui ont ce ministère. Et alors, ce ministère, quel est-il? Quelle est cette stratégie pour changer le monde? Bien, premièrement, nous voulons être confiants dans ce ministère qui transforme par la vérité. Confiants dans ce ministère qui transforme par la vérité. Regardez à nouveau avec moi le verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. La mission de Paul, c'est que les chrétiens aient la foi, une foi solide, une foi fondée sur la vérité. La foi, ce n'est pas un truc flou, abstrait, pour les gens qui ne savent pas trop marcher. La foi chrétienne, ce n'est pas un pas dans le vide. Il n'y a pas non plus une foi comme ça, mais une foi fondée sur la vérité. Pas des concepts loufoques, inutiles peut-être, philosophiques, qui ne changent rien dans la vie. Non, non. Paul aimerait une foi fondée sur la vérité. Une foi en la vérité. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce si important d'avoir la foi en la vérité, d'avoir une foi fondée sur la vérité, de connaître la vérité? C'est parce que selon Paul, c'est la vérité qui change les gens, qui les rend pieux. La vérité, si vous lisez encore avec moi, la vérité conforme à la piété. On pourrait aussi traduire la vérité qui mène à la piété. Alors, la piété. La piété, c'est une vie orientée vers Dieu. Une vie où on veut tout faire pour plaire à Dieu. C'est adorer Dieu, en quelque sorte, par nos actes. C'est vrai que c'est un mot qui semble un peu religieux comme ça. Ça fait penser au moine dans un monastère. Mais c'est pas ça du tout. C'est quelque chose que tous les chrétiens doivent être. Pieux. C'est pour les élus de Dieu. Tous les chrétiens. Être pieux, c'est avoir des normes morales aussi élevées que celles de Dieu. Et quand Paul parle de piété, il ne parle pas de piété à la légère. Rappelez-vous, il parle à Crète. Crète où c'est vraiment le bazar. C'est dans ce contexte de Crète, et même dans ce contexte de Crète, que Paul s'attend à voir du changement. Il s'attend à ce que les gens entendent, croient et connaissent la vérité. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée qu'on mette ensemble vérité et piété. Peut-être si on demandait les gens dans la rue, comment est-ce qu'on rend les gens meilleurs? Peut-être plus de lois, plus de police, peut-être plus de discipline, plus de prières. Il faut aller à la messe. Il faut être religieux. Il faut croire en Dieu. Alors bien sûr, ces choses sont vraies, c'est utile. Mais fondamentalement, ce qu'il nous faut, c'est la vérité. Parce que ces choses-là ne changent que les apparences. Quand j'étais petit, mes parents avaient à cœur que je mange des légumes. Et donc j'étais assis à table à midi, on me sert de la choucroute, c'est très bon la choucroute. Si vous êtes enfant, c'est très bon la choucroute. Mais moi, je n'aimais pas la choucroute. Et alors, je restais à table midi sans manger, et je restais à table tout l'après-midi, jusque le soir. Et le soir, ma mère me remet l'assiette de choucroute devant les yeux. Il faut manger ces légumes, c'est important. Mais en vrai, je les mangeais, mais j'aimais pas ça. Moi, je voulais du chocolat, je voulais des bonbons. Et dès que mes parents tournaient le dos, je m'en piffrais. Non, ce qu'on a besoin, c'est la vérité. C'est de comprendre pourquoi les légumes, c'est bien. On a besoin d'être tellement impressionné par cette vérité, d'être tellement ravi de la beauté de ce qu'il y a dans un légume, qu'on a envie d'en manger. Il faut que mes désirs, nos désirs changent par la vérité. Finalement, nos goûts changent en connaissant la vérité, quand la vérité nous impressionne vraiment. Et donc, ce ne sont pas des règles, des contraintes qui changeront notre manière de vivre. Certes, c'est utile, mais fondamentalement, il faut un changement bien plus profond. Il nous faut connaître la vérité. Il faut la comprendre au plus profond de nous-mêmes. Il faut qu'elle soit si belle, si merveilleuse, si impressionnante, qu'on a juste envie d'elle, qu'elle transforme nos désirs, nos affects, nos motivations. C'est un peu la différence entre celui qui obéit la loi pour avoir l'air d'être un bon citoyen devant la police, et un radar, on ralentit, je suis un bon citoyen, mais quand le radar n'est plus là, on met le pied sur le champignon. La différence entre ça, et puis la personne qui réalise le danger d'aller trop vite, qui réalise la vérité que c'est, le danger que c'est d'aller trop vite, qui garde ses vitesses bonnes, qu'il y ait police, qu'elle ne soit pas là. Alors, évidemment, la piété, ce n'est pas automatique. Comme si on entendait la vérité et paf, on est parfait, tout a changé. Je ne suis pas non plus en train de dire que la piété, ce n'est pas une œuvre de l'esprit. Bien sûr qu'on a besoin de l'esprit qui change notre esprit, notre cœur, pour que nous comprenions, pour que nous désirions, pour que nous croyions la vérité. Et je ne suis pas non plus en train de dire que la piété, ça se fait sans effort, que sans lever le doigt, on va devenir naturellement bon, généreux, plein d'amour. Bien sûr qu'il faudra mettre de la discipline, de l'effort. Mais ce que je dis, et c'est ce que Paul dit, c'est que pour un changement véritable, la piété découle de la vérité. C'est en connaissant la vérité, en croyant la vérité, en chérissant la vérité, que petit à petit, à force de temps, d'écoute attentive, de réflexion, de prière, de discipline parfois, de règles, à force, nos motivations seront transformées de l'intérieur. Et nous voudrons aimer, nous voudrons être bons. Donc la vérité, ce n'est pas une affaire de théologiens, des idées un peu farfelues, lunaires, qui n'ont aucune incidence sur la vie quotidienne. En fait, c'est tout l'inverse. La vérité est attirante. Elle change nos goûts, nos dispositions, nos désirs, nos motivations. La vérité a un impact sur notre vie de tous les jours. Quelle place donnez-vous à la vérité? Quand vous luttez contre un péché, est-ce que la première chose qui vous vient, c'est « il faut que je mette des barrières, des règles, que je fasse ceci un jour par semaine et ça, deux jours par semaine, il faut que je fasse ci et ça ?» Ou est-ce que vous pensez d'abord à la vérité? Qu'est-ce que je ne crois pas? Qu'ai-je besoin de croire? Pourquoi est-ce que j'aime ça et j'aime pas ça? Encore une fois, ces barrières, ces règles sont bonnes parfois. Mais il faut d'abord un changement de vérité, un changement de croyance. Quand vous voyez que le monde est mauvais autour de vous, autour de nous, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on pense d'abord à plein de mesures qu'il faudrait mettre en place? où est-ce qu'on réalise qu'il y a un problème de cœur profond, un besoin de vérité. Mais alors pour un changement de cœur de cette taille, c'est pas juste convertir un enfant du dégoût de la choucroute à l'amour de la choucroute qui va pouvoir le faire. Il faut une vérité bien plus profonde, une vérité bien plus grande. Pour changer cette boussole morale, il nous faut un or très, très magnétique, si vous voulez. Il faut une vérité éclatante de beauté. Une vérité qui nous prenne aux tripes, qu'on désire ardemment. Une vérité qui change tellement un homme que quelqu'un qui était persécuteur des églises, persécuteur des croyants, devienne un homme qui trouve son plaisir à s'appeler serviteur de Dieu, esclave de Dieu, comme l'a dit l'apôtre Paul. Quelle est cette vérité qui l'a changé? Quelle est cette vérité dont nous avons besoin et qui va nous changer? Quelle est cette vérité qui puisse provoquer un renversement si grand à l'échelle d'un individu et à l'échelle d'une société comme Crète, à l'échelle du monde? Eh bien, le ministère de Paul, c'est un ministère qui est fondé sur la vérité, qui transforme par la vérité. Et deuxièmement, c'est un ministère qui donne l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. Pour changer le monde, Paul veut la foi et la connaissance de la vérité, et celles-ci sont fondées sur l'espérance de la vie éternelle. Regardez avec moi au verset 2 de nouveau. Lesquelles, donc la foi, la connaissance de la vérité, reposent sur l'espérance de la vie éternelle. L'espérance, vous savez, c'est pas juste « j'espère qu'il fera beau demain », mais bon, peut-être qu'il pleuvra. Non, dans le Nouveau Testament, l'espérance, c'est quelque chose de bien plus certain, bien plus sûr. C'est un peu comme l'enfant qui espère Noël, qui attend Noël avec tellement d'impatience parce qu'il va pouvoir déballer ses beaux cadeaux. Il sait très bien que Noël arrive et il l'attend ardemment. L'espérance de la vie éternelle. Après la mort, c'est pas les asticots dans une boîte en sapin, comme le monde veut nous faire croire. Non. Le ministère de Paul, c'est l'offre de la vie éternelle. C'est la connaissance d'un moyen d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu et de pouvoir passer notre vie éternelle dans sa présence, dans un endroit parfait où le mal n'existera plus, où le péché n'existera plus. C'est la certitude d'un monde où la justice règne. Un monde où la mort, la souffrance, le mal n'ont pas et n'auront jamais leur place. Un monde où nous serons avec Dieu pour toujours. C'est ça l'espérance chrétienne. Imaginez-vous juste un instant ce que ça voudrait dire. Plus d'hôpitaux. Ils seront vides. Plus de cimetières, ils seront vides. Le chef lui-même viendra vous donner un coup de main, vous, ses employés, avec plaisir. Les employés qui honorent, respectent leur patron. Un gouvernement compétent qui prend de bonnes décisions, et Dieu sait combien on en a besoin. Et le peuple qui ne fait pas grève, mais qui chante les louanges de leur gouvernement, qui fait un si bon travail. On ouvre le journal, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, que des bonnes nouvelles. Tout le monde sera constamment parfait et n'aura qu'un seul but, et c'est tout ce dont on entendra parler dans les rues. Ah, Jésus, extraordinaire. Ah, Dieu m'a sauvé, quelle merveille. Vous imaginez un monde comme ça? Ce n'est pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La connaissance de la vérité, c'est l'offre de la vie éternelle en relation avec Dieu. Cette vérité, c'est l'évangile, c'est le message chrétien. le message central de la Bible. C'est ça qui changera la vie, qui changera la société, qui changera le monde. C'est en fondant notre vie sur ces vérités qui changeront radicalement notre cœur au plus profond de nous-mêmes. L'offre gratuite de la vie éternelle avec notre Créateur. Alors Charles, mon ami anglais, il vivait avec un autre étudiant chrétien. Charles l'a vu vivre différemment. Charles a été invité à l'église par cet autre ami. Et là, Charles a entendu quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. C'était dans l'église où j'étais étudiant moi-même. C'est là que j'ai rencontré Charles. Charles a entendu parler d'un Dieu sauveur. Vous avez remarqué, c'est répété deux fois dans nos versets. Dieu sauveur, Dieu notre sauveur. Il a entendu parler d'un Dieu sauveur qui aime les hommes tellement, alors ces hommes rebelles qui le détestent, il aime ces hommes tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ pour payer la condamnation que nous méritions, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est là que Charles a entendu parler de cette espérance de la vie éternelle. Il a entendu parler de la résurrection de Jésus qui ouvre la porte à notre résurrection pour que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Charles a entendu la vérité. Je me souviens de notre première conversation, on était au fond de la salle comme ça, après la rencontre, puis je demandais, Jésus ressuscité, c'est trop beau pour être vrai, c'est vrai ? La vie éternelle, c'est vrai ? Combien ça changerait tout ? Ça changerait tout. Aujourd'hui, Charles est chrétien, et c'est un homme bien rigolo toujours, mais il fait des choix très différents. Charles ne boit que avec modération. On a pris un verre l'autre jour, c'est sympa. Charles a fait une formation pour apprendre à enseigner la parole, l'expliquer avec clarté à ses collègues, et il saisit toutes les occasions au travail pour parler de Jésus à ses collègues. Il est impliqué dans une église locale. Et dans tout ce qu'il fait dans la vie, finalement, c'est ça. Il cherche à plaire à Dieu. La vie éternelle, ce cadeau qu'on lui a offert, l'a tellement changé. Au trip, toute sa vie a changé. Tous ses choix ont changé. Toutes ses motivations ont changé. Charles a entendu la vérité et Charles est devenu pieux. Pas parfaitement, mais c'est vers là qu'il tend. Et pourquoi ? Parce qu'il a entendu la vérité. Et je pense que cette histoire résonne avec nous tous. Parce que finalement, on a tous un peu vécu ça, si on est chrétien aujourd'hui. On a entendu la vérité, on a compris, on a cru la vérité, et puis tout a changé. La vie a changé. On a des motivations différentes, des aspirations différentes, des priorités différentes, on a un comportement différent. Et donc le ministère de Paul enseigne la vérité, parce qu'elle transforme les vies. Et le ministère de Paul met en avant cette offre de l'espérance de la vie éternelle. Mais alors, c'est bien joli tout ça, mais franchement, est-ce que c'est vrai ? Parce que si c'est des mensonges, ça ne va rien changer. Est-ce que c'est vrai ? Troisièmement, c'est un ministère garanti par Dieu lui-même. Un ministère garanti par Dieu lui-même. Paul veut que nous ayons confiance dans ce ministère. C'est pour ça qu'il commence avec ça. Tite, voici mes priorités, aie confiance en cela. Pourquoi ? Versets 2 et 3, je vais les relire. L'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps, par le Dieu qui ne ment pas, il a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu, notre Seigneur. La vie éternelle est promise, et regardez l'expression, par le Dieu qui ne ment pas. J'aime trop cette phrase, le Dieu qui ne ment pas. Imaginez que c'était écrit ça. L'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps, par le Dieu qui ne ment presque pas. ça change tout. Soudainement, est-ce que je peux faire confiance ? Non. Le Dieu qui ne ment pas, ça c'est une promesse bien plus sûre que la météo, un beau temps peut-être demain. Ça n'a rien d'incertain. Alors à Crète, le mensonge était monnaie courante. Et pour Tite, d'entendre ça, c'est une bouffée d'air frais. La vérité, un Dieu qui ne ment pas. On croise aussi, nous, des paroles, des promesses en l'air, parfois mal intentionnées, parfois même bien intentionnées. Vous vous souvenez peut-être de ce discours de François Hollande, je l'ai regardé encore une fois cette semaine, c'était émouvant, émouvant, avec une petite musique de fond. Le changement, c'est maintenant! Quel que soit votre bord politique, il y avait quelque chose de beau dans ça. Mais finalement, qu'est-ce qui a changé? Ou bien, outre-Atlantique, rendre à l'Amérique sa grandeur d'antan. Ça fait rêver. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est pas comme ça avec Dieu. Le Dieu qui ne ment pas. On peut lui faire confiance. Quand il promet la vie éternelle, c'est parce qu'il nous la donnera. Et Paul veut encore aller un petit peu plus loin pour nous rassurer. Verset 3. La parole de Dieu a été manifestée. La vérité est connue. Elle est accessible. Dieu a parlé et nous pouvons l'écouter. Dieu ne nous a pas laissés dans le noir à deviner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qu'il faut espérer, ce qu'il ne faut pas espérer. Dans un monde où tout le monde ment, où tout le monde agit selon ses propres intérêts, où l'on est plus intéressé par ce qu'on aime, ce qui nous arrange, plutôt que ce qui est juste et vrai. Dans un monde qui n'est finalement pas si différent de Crète, je pense qu'on est bien content de savoir que Dieu ne ment pas et qu'il nous a fait connaître la vérité. Où est-elle révélée? Comment pouvons-nous avoir accès à cette vérité? C'est la suite du verset. Par la prédication qui m'a, à moi Paul, été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Dieu a confié à Paul et aux apôtres la vérité. Ce que Paul dit, c'est ce que Dieu dit. Parfois, on entend des chrétiens qui disent « Ah oui, Jésus, c'est magnifique, j'aime trop son enseignement. » Mais Paul, non, Paul, ça ne m'intéresse pas. Je laisse de côté. Non. Ce que Paul dit, c'est ce que Dieu lui a dit de dire. Si Dieu le dit, Paul l'a dit. Et si Paul l'a dit, Dieu l'a dit. Tout ce qu'il faut à Tite pour changer Crète, tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour changer nous, pour changer le monde, se trouve dans la Bible, communiqué définitivement par Dieu. Il nous faut simplement ouvrir les pages de ce livre pour la découvrir. Nous pouvons être confiants que c'est la vérité. La vérité qui provient d'un Dieu qui ne ment pas. Confiant que ce que Paul va écrire à Tite, c'est vraiment la bonne stratégie. C'est la stratégie de Dieu pour changer ce monde. C'est le ministère de Paul, c'est le ministère de Dieu. Quelques implications pour conclure. Paul a cette stratégie pour changer le monde et il la confie à Tite dans cette lettre. C'est ce qu'on voit au verset 4, « À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. » Et il la confie également à d'autres responsables d'église, à Joël, aux anciens de notre église. Leur ministère à eux, à ces anciens, doit être fondé sur l'enseignement de la vérité, sur l'évangile, pour que nous, église, nous puissions grandir, devenir pieux. Un jour, quelqu'un a dit que être pasteur, être ancien, c'est le métier le plus important au monde. Parce que c'est par ce métier, finalement, que l'on entendra la vérité, que le monde changera. Alors, il ne faut pas les mettre sur un piédestal, mais comprenez l'idée. Alors, la plupart d'entre nous ne sommes pas des titres, nous ne sommes pas des pasteurs, mais Paul voulait quand même que nous écoutions. Et il nous invite ce matin à nous demander ce que nous cherchons dans une église. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes assis sur ces chaises, ici, à l'église réformée baptiste du Grésivaudan? Et puis si un jour vous déménagez, vous irez où? Dans quelle église? Qu'est-ce que vous rechercherez dans une église? Ce n'est pas le projet, mais si un jour Joël partait, disparaissait, quel pasteur rechercherez-vous? Quel ministère rechercherez-vous? Peut-être plus concrètement, à qui donnerez-vous votre argent? Dans quel ministère investirez-vous? À quelle église donnerez-vous de l'argent? Dans quelle œuvre chrétienne allez-vous vous investir? Investir du temps, des ressources? Dieu nous montre ce matin qu'une église qui a un véritable impact dans le monde, dans nos vies, un ministère efficace, c'est une église où on prêche la vérité. La vérité de l'Évangile. L'Évangile dit, expliquer, prêcher, chanter, prier. Une église où on n'a pas peur de dire ce qui est difficile, contre-culturel, tant que c'est la vérité. Une église qui, par la vérité, cherche notre piété. Dieu veut que nous soutenions ce genre d'église. Et je loue Dieu parce que c'est le cas dans cette église et dans d'autres à Grenoble. C'est ces églises-là qui vont changer le monde. L'église doit prêcher la vérité. Si elle ne le fait plus, elle n'est plus digne de ce nom. Elle n'a plus de raison d'être. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Parfois, je trouve ça un peu flou. Après tout, la société semble de pire en pire. Le mal est toujours autour de nous. Qu'est-ce que ça va changer une église? Et j'aime me souvenir d'où nous venons. Dans ce monde, autrefois ici et dans d'autres endroits du monde, encore le cas aujourd'hui, ce n'est pas toujours comme on le vit aujourd'hui. Dans le monde, c'est naturellement la loi du plus fort. Le plus riche, le plus fort, le plus musclé, le plus intelligent, c'est eux qui font la loi. On n'a pas toujours cru que tous naissent libres et égaux en droit. On n'a pas toujours eu la liberté d'expression, la liberté de religion et d'autres. On n'a pas toujours eu des contrats entre employés et employeurs, 35 heures, un SMIC, la sécu. Pourquoi est-ce que notre société est ce qu'elle est aujourd'hui? Pourquoi est-ce que de manière générale, en Occident, on aime, on met en valeur l'amour du prochain, la justice, l'honnêteté? Toutes ces choses sont fondamentalement chrétiennes. Certes, on les retrouve un peu partout, mais fondamentalement, elles sont chrétiennes. Et elles ne sont apparues dans notre société et apparues de la part de nos dirigeants pour qu'elles soient instaurées au cœur même de la société. Ça, c'est seulement parce que des églises ont prêché la vérité de l'Évangile qui a transformé les vies, transformé les dirigeants, transformé des gens qui avaient du pouvoir, qui ont pu changer les choses. Si les églises passent à côté de la vérité, la société ne s'améliorera pas, mais elle sombrera. Peut-être on voit un petit peu de ça aujourd'hui. Je ne voudrais pas oublier qu'une église qui a un impact, c'est aussi une église qui a une perspective éternelle. Ce monde restera toujours pécheur, corrompu, mauvais, même si on croit au changement, même si les églises peuvent faire des différences. Une église qui a un impact est avant tout une église qui a les yeux fixés sur l'éternité. Nous visons ce monde glorieux dans lequel tout sera parfait. Et alors, nous voudrons vivre une vie qui correspond à cela aujourd'hui. Nous ne voulons pas soutenir ce genre de ministère, ce genre d'église, ce genre de proclamation des vérités, un ministère qui transforme vraiment des vies. N'est-ce pas dans ces églises que nous voulons nous investir? Et puis j'aimerais aussi qu'on réfléchisse un petit peu à la manière dont on conçoit, on voit l'église. Je me demande dans quelle attitude vous êtes venu ce matin. Peut-être que vous étiez découragé, fatigué, vous venez par habitude, par automatisme, c'est la bonne chose à faire, je suis un chrétien après tout. C'est vrai que l'église, ça n'a pas l'air extraordinaire, c'est un mec qui fait un monologue à un groupe de personnes qui écoutent silencieusement, on chante quelques chants et puis voilà quoi. Et puis ensuite... ou parler du foot, ou on parle de la rando, ou de la politique. C'est quoi l'Église, finalement? Pourquoi on y vient? Pour Paul, c'est à l'Église que le monde change. Quand on vient à l'Église dimanche matin, c'est pas une activité ordinaire. Est-ce qu'on se rend compte, quand on arrive à l'Église le dimanche matin, on s'approche de l'épicentre d'une transformation radicale? Le ministère de la proclamation de la vérité, de l'espérance de la vie éternelle, fondée sur un Dieu qui ne ment pas. C'est ça qui changera le monde. Et alors peut-être, en venant à l'église, vous pourrez prendre l'habitude de prier pour nos responsables, ceux qui prêchent, ceux qui enseignent. C'est la vérité qui doit demeurer au centre. On pourrait prier pour que nos cœurs soient disposés à entendre, à recevoir, à être dans l'expectative d'un changement, être disposés à changer. Changer par la vérité. Peut-être qu'après la rencontre, on pourrait faire l'effort de parler de la prédication, d'entamer une conversation autour de la vérité qui vient d'être proclamée. On pourrait même prier avant d'arriver... que Dieu nous place à côté d'une personne qu'on pourrait encourager avec la vérité. Priez pour que, ensemble, en entendant la vérité, nous y croyons, nous l'assimilions, nous la chérissions, nous la désirons. Paul aimerait que le responsable de l'Église, Paul aimerait que nous tous, nous soutenions, nous encourageons, nous mettons en avant nos investissions dans un ministère qui transforme par la vérité, un ministère qui offre l'espérance de la vie éternelle, un ministère qui est garanti par Dieu, un Dieu qui ne ment pas.